Posons-nous la question. Quelle est la première détermination de l'ordre de l'être en tant qu'être? Et ceci, c'est par rapport à l'homme que nous posons la question. Puisque la réalité la plus noble, la plus qualitative, première, c'est l'homme. Je n'ai pas d'expérience plus grande que celle de l'homme. C'est très important, ça, de se rappeler ça et de se le dire. Vous voyez, c'est au fond, au cœur de la phénoménologie. La phénoménologie consiste à dire ma plus grande expérience, c'est l'expérience que j'ai de l'homme. Est-ce que c'est moi ou l'autre? Alors, ma plus belle expérience que je peux avoir, c'est celle de l'amitié. Mais l'amitié, est-ce qu'elle me fait découvrir moi ou l'ami? À Fribourg, on avait fait une petite fête pour les Vinas, comme ça. Et on m'avait demandé de faire une conférence. La personne qui s'occupait de ça, c'était une disciple vraiment de les Vinas, alors, qui est en même temps très. Que je connaissais bien, et qui m'aimait bien aussi au point de vue philosophique. Elle est venue me demander de faire une conférence. Je lui ai dit, je ne suis pas phénoménologue. Comment voulez-vous que je fasse une conférence pour les Vinas par rapport à la phénoménologie? Elle me dit, oh, ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune importance. Vous êtes. Alors, faites quand même une conférence, ça lui fera beaucoup de plaisir. J'étais à côté de lui, moi. Ces conférences successives, je me suis dit, qu'est-ce que je vais prendre comme conférence pour être proche des cheminots? J'ai pris l'expérience de l'amitié. Parce que dans l'amitié, évidemment, je ne suis pas en métaphysique, je suis en éthique, et j'ai l'expérience de l'autre et l'expérience de moi. Et c'est bien que l'amitié est une pièce tournante, hein. Facilement, si je considère l'amitié comme l'expérience la plus noble et la plus grande de toute ma vie, je suis phénoménologue. L'étude de mon ami et mon étude dans mon ami, l'étude de moi-même dans mon ami, c'est très phénoménologique. Alors, elle était là, durée cette brave étudiante qui était professeure en Pologne. Alors, elle est venue me dire, quand j'ai terminé, vous avez dit tout ce que le phénoménologue n'ose pas dire et ne veut pas dire. Parce qu'il est, et c'était assez juste, parce qu'il est fidèle à ses méthodes, plutôt qu'à l'expérience. Ça m'a beaucoup intéressé, la remarque qu'elle faisait, parce qu'au fond, c'est assez juste. Je suis fidèle à l'expérience et pas à la méthode. Je suis fidèle à la méthode et pas à l'expérience. Ça fait deux catégories de philosophes. Cherchons-nous la vérité, elle n'est pas dans une méthode. La méthode, c'est encore moi. C'est encore la logique, la méthode. Alors, quand on veut que tout soit dans la méthode, on n'étudie pas la réalité. La réalité vous échappe. Mais la phénoménologie est intéressante comme approche. C'est Bon, la phénoménologie est beaucoup plus proche de notre philosophie que l'idéalisme. L'idéalisme, c'est tout de suite l'intuition, et c'est moi. Tandis que la phénoménologie étudie ce qu'il y a de commun dans nos expériences, mais étudie avant tout le sujet. Peut-être beaucoup plus que l'objet. C'est assez subtil, mais au fond, c'est ça la grosse différence. Et je crois que pour nous, dans une recherche de la substance, on doit aller très lentement, parce que on est tellement loin de la saisie de la substance. On est tellement loin de la saisie d'un principe de l'être. On pourrait préciser ce qui est premier dans l'être. Vous ne pouvez pas demeurer pour saisir ce qui est premier dans l'être, saisir ce qui est premier dans votre conscience. C'est pas la même chose. Ce qui est premier dans votre conscience que vous avez des différentes expériences, c'est très intéressant par rapport à vous, mais ce n'est pas ce qui est premier dans l'autre l'être. Avez-vous l'expérience de l'être ? J'ai l'expérience du comment de l'être, de ce comment humain de l'être, ça oui. J'ai l'expérience de mon ami et j'ai mon expérience d'ami par rapport à lui. Mais cette expérience de l'ami, c'est pas l'expérience de ce que je suis. C'est autre chose. Alors vous voyez, il y a quelque chose d'extrêmement important pour nous dans cette recherche de la substance, c'est que nous pouvons utiliser dans une méthode réaliste, c'est-à-dire à base d'expérience. La méthode réaliste est à base d'expérience. C'est de respecter toute expérience. Et je n'ai jamais eu le droit de supprimer une expérience au point de vue philosophique. Mais je dois critiquer quand on prétend que c'est l'expérience. En réalité, c'est souvent pas l'expérience, c'est la conscience de l'expérience que vous avez. C'est pas la même chose. Et l'expérience n'est pas l'expérimentation. Aujourd'hui, on confond constamment expérimentation et expérience. L'expérimentation, c'est à l'intérieur de la physique, à l'intérieur de la chimie, à l'intérieur d'une connaissance. On fait une expérimentation en se servant d'instruments. Parce que si on ne se servait pas d'instruments, on ne verrait pas grand-chose. Pour l'astronomie, c'est bien ce qui se passe. Hein. Vous serez une description du ciel. Vous serez peut-être comme la petite Thérèse en disant « Elle est très heureuse que le thé est inscrit dans le ciel. » Donc, c'est très bien. Oui, c'est très gentil. Mais ce n'est pas scientifique. Ce qui est scientifique, c'est en se servant d'instruments. Et on est obligé de dire, je vois ça à travers tel instrument. Sans instrument, je ne le vois pas. On est obligé tout le temps de préciser. Et au fond, toute la science physique se développe grâce aux instruments. Ce n'est pas une connaissance immédiate. Tandis que l'expérience philosophique est une expérience immédiate. Vous avez le droit de mettre des lunettes, mais pas autrement. Les lunettes sont faites pour corriger la vue, et pour corriger la vie, et non pas pour augmenter la vue vous avez une vision de choses que je ne vois pas naturellement, et que je vois grâce aux instruments. Mais puisque je le vois grâce aux instruments, je dois l'inscrire. Ce que vous voyez uniquement grâce aux instruments, vous ne le voyez pas immédiatement. Donc ça implique une sélection, une abstraction. Ce que vous voyez du haut de l'avion, quand vous êtes à 1000 mètres, vous avez une vision de quelqu'un qui est à 1000 mètres. Et vous n'avez pas le droit de dire, j'ai l'expérience de ces villages parce que je l'ai vu à 1000 mètres. Et j'ai l'expérience du monde entier parce que j'ai parcouru en avion le monde entier. Dont l'expérience. Vous voyez ? Et vous le faites automatiquement quand vous êtes en avion. Vous savez très bien que vous n'avez pas l'expérience d'un village que vous avez vu 1000 mètres d'en haut. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas vues. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas vues. Vous avez vu certaines choses, sûrement, mais il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas vues. Donc votre expérience, elle est très spéciale. Et quand vous le prenez grâce à tel instrument, je vois telle chose. Ah, notez, vous ne le voyez pas au bout de votre nez. Vous ne le voyez pas en le touchant. Le seul sens qui me donne l'existence, c'est le toucher. C'est très important, ça. La vision ne vous donne pas l'existence. C'est très intéressant. Ça vous donne certaines déterminations, certaines relations. C'est très le point de vue intuitif. Les instruments augmentent l'intuition, mais l'expérience du toucher, c'est la seule expérience de l'existence. Et ça, c'est très important dans ma recherche philosophique. Ce que je touche, qu'est-ce que je touche ? Est-ce que vous touchez la substance? Non. Vous ne pouvez pas la toucher. Vous touchez des effets qui sont liés à la substance, mais vous ne touchez pas la substance. Est-ce que vous la voyez? Non, je ne la vois pas. Je ne la vois qu'intellectuellement. Alors, je m'approche. Et exactement comme un chasseur qui a vu que son gibier était caché dans un petit fourré, il s'approche avec ses chiens. On s'approche de la substance. Il faut vous approcher. Et la première période, c'est s'approcher. Alors je vous disais, première chose qui nous permet d'écarter le lieu et le temps. Très important, ça. Parce qu'il y a certaines réalités qui sont liées au temps. Et donc, Aristote ne les a peut-être pas vues. Une réalité qui n'est pas liée au temps. Ah, Aristote est tout près. De l'intelligence. Aristote, oui. Aristote nous dit ce que l'intelligence saisit. Pas du tout ce qu'on a touché. Il était lié au temps. Ce qui est lié au temps, c'est, je ne sais pas, la forme des maisons, de l'architecture. Évidemment, elle n'est plus la même que celle d'Aristote. Et le sol d'Athènes n'est peut-être pas le sol d'Athènes qu'Aristote a touché. À Jérusalem, on voit que le sol de Jérusalem que Jésus a touché, c'est pas du tout celui qu'on touche. Il faut creuser. Ça, extraordinaire, d'une propriété tenue par les sœurs des sœurs sont installés à Jérusalem, qui avaient acheté cette propriété, sans savoir ce que c'était. On a dû creuser pour des fondations. Et on est arrivé à un dallage du temps de Jésus. On a creusé un mètre de saleté. Ils sont accumulés pour trouver ce dallage. Vous comprenez ? Ça, ça a été quelque chose, trouver ce dallage. Alors, à partir de là, on a creusé avec beaucoup de soin. Et on pense qu'on a découvert le lieu où Jésus a été flagellé. Ça, c'est impressionnant. Il fallait un mètre. Et alors, et de plus en plus, vous voyez la certitude que c'était bien la salle ou l'endroit de la flagellation. Vous comprenez, ça fait, c'est l'émotion de l'archéologue. Il y avait un père dominicain qui était archéologue à Jérusalem. Il me parlait de l'émotion de l'archéologue. On creuse un mètre avant de trouver un sol où Jésus a dû marcher. Alors on voit que c'est enfoui. C'est vrai, les choses. Alors, au fond, l'archéologue cherche le sol premier. Je cherche métaphysiquement le sol premier, la substance, principe de l'être, le lieu n'est pas principe de l'être, le temps n'est pas principe de l'être, c'est très extérieur, tu cherches ce que qui est principe de l'être. Bon, après le lieu et le temps, il y a l'action. L'action et la passion sont des prédicaments. L'action et la passion ne sont pas des déterminations de l'être. C'est des déterminations déjà d'un sujet existant qui agit en vivant. Toutes nos actions ne touchent pas immédiatement l'être. Ce sont mes actions. Et donc, c'est passé à travers un sujet existant. Supprimer tout ce qui est action et passion, dépasser. Je ne dis pas supprimer, dépasser. Il faut aller au-dessus de cela. Action et passion. Or, action et passion, ça sert énormément à la phénoménologie. On est toujours dans l'action et la passion. Les réactions de quelqu'un à l'égard de l'action. Quand vous piquez, c'était la grande astuce avant, où il y avait des Suisses dans toutes les cérémonies d'église. Il y avait des Suisses, il y avait genre par là. Et les enfants de cœur s'amusaient pour voir si leurs mollets étaient des vrais mollets. Ils avaient une petite aiguille et ils restaient bien sérieux sans bouger. Alors on voyait jusqu'où c'était vrai. Alors ils piquaient. C'est merveilleux ça. Bon, je cherche aussi à piquer l'être pour toucher la substance. Est-ce que je touche la substance de quelqu'un quand je vois son action ? Quand je vous vois travailler et prendre des notes, est-ce que je peux, en disant prendre ces notes, je saisis votre âme ? Votre substance. La manière de prendre des notes, je saisis tout de suite. Le bonhomme. Vous voyez ? on reste très souvent là, dans les actions et les passions. On décrit les passions, on décrit un novice à la manière dont il réagit. C'est les actions et les passions. Vous n'avez pas saisi son âme. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qui on reçoit. C'est l'âme de quelqu'un. Celui qui fait profession, il fait profession quant à ce qu'il est en face de Dieu. Dans quelle mesure quelqu'un qui est votre voisin peut saisir votre substance, votre âme? Il saisit vos actions et vos réactions. Ça, on les décrit. Et on les décrit merveilleusement. D'un côté d'un voisin qui est très nerveux. Il réagit au quart de tour. Pas besoin de piquer son mollet. Il réagit au quart de tour. Oui, tout simplement. Mais qu'est-ce que ça fait, ça? C'est tout simplement ses réactions instinctives. Ses nervosités. C'est son tempérament. Il est bilieux ou au contraire lymphatique. Et puis il y en a qui, vraiment, ils ne réagissent jamais. On se demande vraiment s'ils sont vivants. Ils ne réagissent jamais. Alors le, on aurait envie de piquer le mollet pour voir s'ils réagiraient. C'est peut-être la seule façon qu'ils réagiraient. L'action et la passion, c'est très important pour la vie commune. L'action et la passion. Chacun d'entre nous, nous agissons différemment. Notre individualité et notre personnalité est marquée dans chacune de nos actions. Et quelqu'un peut nous imiter, mais il nous imitera. Et en nous imitant, peut-être qu'il voit l'extérieur avant tout. Et qui ne voit pas les intentions. Si je suis un être humain, dans toutes mes activités, il y a une intention. Et l'intention, est-ce que je la saisis? Si on ne me la dit pas, je ne la saisis pas. Je saisis de l'extérieur. Donc l'action et la passion me permet de décrire l'individu. Le sujet, mais pas plus. Donc, c'est secondaire. Ce n'est pas premier dans son être. Toute son activité est toujours secondaire. Elle est l'activité d'un sujet, d'un individu. Et ce que je cherche, c'est ce qu'est cet individu dans son être, pas dans son activité. Je peux m'intéresser à son activité, ça c'est très juste. Je peux décrire son activité et ça m'intéresse beaucoup de saisir l'originalité de sa activité. C'est comme ça que je fais le croquis d'une personne. Je saisis ce qu'il y a d'original en lui et je le mets en pleine lumière. L'originalité d'un croquis d'une personne. C'est pas sa substance. Sa passivité très grande, son calme, paisible. Il ne bronche jamais, il ne bouge pas. Il reste muet. Tandis que je change de voisin, lui, il bouge tout le temps. Dire que quelqu'un reste très fort immobile, on se demande. Jusqu'où il est vivant, parce qu'il reste tout à fait immobile. Au contraire, décrire quelqu'un est terriblement secoué pour un rien. C'est très bien, c'est une description de l'individu qui a un tempérament lymphatique ou un tempérament terriblement nerveux. Mais ce n'est pas son être, c'est son tempérament. Le tempérament de quelqu'un n'est pas son être. composition différente de chacun d'entre nous. Et cette composition différente réagit dans nos activités, dans une activité, tout de suite, il y a telle note particulière qui apparaît. Mais ce n'est pas premier. Donc toute la phénoménologie qui me donne réaction, action et passion, d'une façon admirable, qui me les décrit, c'est très intéressant de voir ça. Ça permet de donner des descriptions qui sont extrêmement importantes, mais ne touche pas au sujet. Et le sujet est-il la substance ? Point d'interrogation. Donc, je ne peux pas m'arrêter à l'action et à la passion. Et c'est pourtant des prédicaments extrêmement importants pour saisir ce que c'est que le vivant. C'est très important, quand on veut choisir quelqu'un, de savoir son tempérament et les différents tempéraments qu'on donnait dans le temps. Est-il sanguin ? Est-il pilieux ? Est-il... Bon, c'est très bien, c'est intéressant de savoir ça. Mais ça ne me dit pas ce que c'est, ce qu'il est dans son être. Ce que je suis dans mon activité n'est pas ce que je suis dans mon être. Ça le manifeste. Ah oui, ça manifeste. Et c'est pour ça qu'il est très important de saisir d'abord ce qui le manifeste, par ses actions, par ses réactions. La manière dont il pâtit quand on l'injurie, la manière dont il pâtit quand on marche sur ses pieds, la manière dont il réagit quand on l'attaque. Et c'est vrai, chacun d'entre nous, nous réagissons différemment. Et avec l'âge, on ne réagit pas de la même manière quand on a 30 ans, quand on en a 70, on ne réagit pas du tout de la même manière. C'est très curieux, ça subit le temps et le lieu. Il y a des gens qui sont en colère dans certains lieux et que dans d'autres lieux, ils sont très paisibles. Pourquoi ça ? Parce que dans ce lieu, il y a de mauvais souvenirs. Et ces mauvais souvenirs demeurent. Il est bien évident que tous les souvenirs jouent, la question du temps, jouent dans mes activités. Je n'agis pas de la même manière quand j'ai 70 ans ou quand j'en ai 40. Il y a toujours quelque chose de commun, l'individu, le sujet. Alors, la substance est plus proche du sujet que de son action. Je ne peux donc pas m'arrêter à l'action et à la passion pour savoir ce qu'est la substance de l'être. Vous voyez, je m'approche toujours davantage. Après l'action et la passion, je regarde les qualités. Ah, je suis déjà beaucoup plus proche de la substance. Les qualités. Les qualités de son corps, les qualités de son âme. Et je fais la différence. Si cet homme, il est très costaud. Point de vue de son corps. Majesté extraordinaire. Et puis j'essaie de comprendre un peu la manière dont il pense, dont il réagit. Il réagit comme tout le monde. Il n'y a rien de personnel. Il est très individualisé. Il est très extraordinaire. Il a un corps une majesté extraordinaire, mais ce n'est pas très majestueux. Il donne l'impression d'occuper toute son âme. C'est curieux, ces choses-là. On a l'impression, devant certains êtres humains, que leur corps est tellement parfait, tellement majestueux, que le souci de l'âme, c'est uniquement d'habiter ce corps. Parce que ça fait déjà beaucoup d'habiter un corps qui est une cathédrale. D'habiter un corps qui est quelque chose de très majestueux, de très grand. Et on voit tout de suite la différence et qualité du corps. Et les qualités de l'âme. Et nous voyons que ces qualités ne peuvent pas être la substance. Ce ne sont pas les déterminations premières. Du fait même que vous faites la distinction entre qualité corporelle et qualité spirituelle, vous voyez donc qu'au point de vue de l'être, ces qualités, c'est pas première. C'est les qualités d'un individu. C'est les qualités de tel monsieur, de telle madame, de tel homme, de telle femme. Et c'est très intéressant. Alors là, il faudrait, si on avait le temps, regarder toutes les qualités et la diversité des qualités. Aristote nous a donné une division des qualités assez extraordinaire. La qualité du corps dominant, c'est la physionomie de quelqu'un. Sa figure, son visage, ses yeux, c'est quelque chose d'extraordinaire déjà. Les yeux de quelqu'un, le regard de quelqu'un. Il y a des gens qui ont un regard foudroyant. On ne peut pas soutenir le regard. Parce qu'on a l'impression qu'il lit tout. Intérieurement. Alors en face d'eux, on est comme inhibé. Et ces personnes le savent. Et elles jouent de l'importance du regard. Vous savez, c'est quand la mère qui dit à son gosse « Ton nez tourne, tu dis un mensonge. » La mère peut dire ça parce qu'elle connaît son gosse. Et elle voit bien que quand il ment, c'est déjà quelque chose d'assez élaboré. Ce n'est pas quelque chose de tout à fait premier. Et c'est vrai, tout mensonge est second. Quand on connaît bien quelqu'un, comme la mère vis-à-vis de son gosse, elle peut dire « ton nez tourne ». Je dis quelque chose de fou, qui n'est pas vrai. Et quand on connaît bien ce que c'est que l'homme, il y a des personnes qui sont attachées à recruter pour une usine, recruter le personnel, et elles regardent le nez, elles regardent les yeux. Et regarde si on a affaire à quelqu'un qui est droit, qui est juste, qualité, dévot. Les qualités corporelles, ça joue très grand, l'agilité. Quand vous avez affaire à un être extrêmement un petit japonais, vous savez, les japonais ont cette espèce de possibilité, il paraît-il qu'on les éduque pour cela aussi. Je me souviens d'avoir vu un gosse qui faisait du ski. C'était assez extraordinaire. Avec ses skis, il arrivait à faire la pirouette. Il fallait une agilité pour des choses. Pour faire la pirouette avant de s'arrêter. Et c'est vrai, le vieillissement d'un être, c'est l'agilité qui disparaît. C'est la première chose. Le corps n'a plus la même souplesse. qui donne cette espèce d'infirmité au corps qui a perdu son agilité. Est-ce que l'agilité touche la substance d'un être ? Ah, il est extrêmement agile. Il va avoir une âme splendide. Non, c'est corporel. Alors, voyez, première distinction des qualités. Vous distinguez les qualités du corps, les qualités de l'âme. Les qualités de l'âme, la subtilité de l'intelligence. L'analogie, c'est la subtilité de l'intelligence. C'est ça l'analogie. De voir les contraires et de voir ce qui lui dit les contraires. Quel est ce qui a de foncier? De voir la qualité de l'intelligence, la qualité d'un savant qui dans son domaine est merveilleux, mais dès qu'il quitte son domaine, ah, ce n'est beaucoup moins vertueux. Vous voyez des savants qui sont merveilleux dans leur science et qui, au point de vue prudence, l'intelligence pratique, ils sont nuls. Vous voyez, tout a été pris par la science, tout a été pris par les mathématiques, tout a été pris par la métaphysique. C'est un peu différent la métaphysique. Parce qu'elle doit s'intéresser à l'homme. Donc, elle ne peut pas faire de coupure. Elle doit nécessairement regarder le développement d'une intelligence spéculative et d'une intelligence pratique. Et elle doit, autant que possible, harmoniser les deux. Mais toutes les qualités, vous voyez, intellectuelles, ce n'est pas la substance. C'est les qualités d'un sujet. C'est les qualités d'un sujet par rapport à sa fin, par rapport à ce qu'il est. Et vous voyez là déjà des différences très profondes, des gens qui s'intéressent surtout à leur finalité et des gens qui s'intéressent surtout à la forme, à la manière d'être. Suis-je bien? Bien, c'était un père, je ne le nomme pas, mais un père qui avait très fort le souci d'être bien. Alors, on raconte cette histoire. Il a été pris d'une maladie terrible. Et il a dû être opéré en toute vitesse. Et alors, la première chose qu'il a dit en se réveillant, suis-je bien ? C'est l'opération qui a été difficile. Est-ce que je suis correct à présenter aux gens ? Ben, le souci de correction, le souci de la façade, pour que la façade au moins soit parfaite, intérieurement, ça a moins d'importance. Mais la façade, il y a des gens qui ont très fort ce souci-là, de l'extériorité, comment ils paraissent. Et puis des soucis de gens qui s'occupent beaucoup moins de ça, qui s'occupent uniquement, intérieurement, des vertus. Et c'est vrai, la vertu, c'est une qualité. Alors, la vertu est telle. Touche-t-elle la personne? Vous voyez, comme ça touche déjà beaucoup plus. Cet individu est-il intelligent? Mais l'intelligent n'est pas notre substance. Est-il capable d'aimer? Est-il vertueux? Toutes les qualités. Il faut essayer de bien voir ces qualités. Et la dernière des qualités, c'est la physionomie, la figura, la physionomie d'un terrain, d'un paysage, la physionomie d'un être humain. Comment se présente-t-il? il se présente magnifiquement. Et d'autres, il se présente sans trop bien savoir. Je me souviens, c'était dans un évêché où je ne connaissais pas l'évêque. Je lui ai demandé, en voyant les personnes qui arrivaient, qui pouvait être l'évêque. Il n'y avait aucun signe extérieur, rien. Est-ce que c'était celui qui est présenté le mieux? Ou est-ce que c'était celui qui présentait le moins bien? Et j'ai eu quelques moments d'hésitation. Parce que c'est gênant de se précipiter sur quelqu'un, mon Seigneur. D'habitude, il y a des signes extérieurs, il y a au moins la croix. Et puis l'anneau, bon, très bien, non, mais il n'y avait aucun signe. Et le vicaire général présentait beaucoup mieux. Au point de vue présentation, on allait spontanément au vicaire général. Quand on le connaissait, on comprenait que cet effacement, c'était une profonde humilité qui, au fond, attirait, mais n'attirait pas premièrement. Alors, c'est la substance d'un être. Est-ce qu'elle se manifeste à l'extérieur? Vous voyez, quand on voit les artistes, qui est Rembrandt, qui fait son portrait. Et pour l'artiste, le portrait, ça peut être capital. Et c'est vrai, c'est la physionomie d'une personne humaine qui est la physionomie première. La physionomie d'un paysage, c'est second. Parce que c'est pas vivant. Tandis que la physionomie d'une personne, la physionomie d'un enfant, voyez, la physionomie, c'est ce qui exprime le mieux à l'extérieur la personne, la substance. Mais c'est pas la substance, c'est sa manifestation. Or, il n'y a pas adéquation parfaite entre la substance et la manifestation. Il faut donc être suffisamment perspicace au point de vue de l'intelligence pour remarquer la physionomie d'un être, la physionomie du vivant, la physionomie du crapaud. D'une physionomie particulière, la physionomie du singe, la physionomie de l'homme et de l'enfant. Quand vous regardez dans un musée l'art égyptien, qui n'a pas découvert la physionomie de l'enfant, la physionomie de l'enfant a été découverte dans l'art grec. Déjà très extraordinaire de découvrir la physionomie de l'enfant. Alors que spontanément, on regarde un enfant et on l'aime. Mais la physionomie de l'enfant n'exprime pas son âme. Mais il y a quelque chose. La physionomie d'un vieillard. Tout ce qu'il a travaillé, tout ce qu'il a peiné dans sa vie, se remarque dans sa physionomie, se traduit dans la physionomie. Oui, au fond, la physionomie, le visage, c'est très féminologique. J'allais presque dire que le visage, c'est le sommet de la physionomie. de la féminologie. C'est le visage, le regard exprime ce qu'on a au plus fond, au plus intime de soi. Et pourtant, ce n'est que l'extérieur. Ce n'est que le visage de l'extérieur. Donc, il faut dépasser la figura. Il faut dépasser le point de vue d'une attitude vertueuse, d'une attitude de la vraie vertu. La vraie vertu exprime quelque chose de l'âme. Il faut dépasser ce point de vue-là tout en s'en servant. Mais ce n'est pas la substance. J'arrive, après avoir étudié toutes les qualités, j'en arrive à saisir le sujet. Pour beaucoup de philosophes, la substance, c'est le sujet. Et j'arrive à saisir au point de vue philosophique ce qu'on est au point de vue intelligibilité, l'homme. Dans tout homme, il y a le sujet, ce qu'il est, son existence, et puis ce qu'il est, on dira au point de vue philosophique, sa quiddité, le toti enein. Là, c'est Aristote qui a inventé ça, et Sartre reprend ce mot. C'est intéressant. D'Aristote à Sartre, ça fait quand même pas mal de chemin. Le mot quiddité en grec, c'est to, ti, en, enai. Le to, enai du tien. Le to, enai, donc l'être, enai, l'être, le to, enai, l'être. Et dans l'être, ce qui est. Ce qu'il est, son intelligibilité, l'homme, c'est un homme. Voilà deux choses qui apparaissent comme fondamentales. Le sujet et puis la quiddité. Il y a deux choses en nous. Et en toute réalité, il y a l'individu qui existe, le sujet, qui supporte tous les accidents. Et puis, ce qu'il est. Et on dira, saint Thomas dira, substance première, substance seconde. Ah. Le mot substance apparaît là, à la suite d'Aristote. Le mot substance, c'est donc quelque chose de premier. Mais ce n'est pas encore le premier. Et je crois qu'il faut être très attentif à cela. Toutes les qualités d'un individu aboutissent à cette dualité, le sujet et la quiddité. Substance première, le sujet. Substance seconde, la quiddité. On est en face de quelque chose de tout à fait premier. Et cependant, ce n'est pas le premier puisqu'ils sont deux. La substance est une. Elle est principe. Principe de ce qui est. Mais, descriptivement, je peux toucher dans tout être humain, l'individu. Je peux le décrire, l'individu. Et puis je peux découvrir dans cet individu quelque chose qui est commun avec tous les autres individus. Sa quotité. Le tout-ti-en-en-en. Alors, en latin, c'est quiditas, tout-ti-en-en-en. La quotité. Et ça veut dire son intelligibilité. Ce qu'il est profondément. C'est un homme. Ce n'est pas un animal. C'est un homme. Mais cet homme se donne à moi dans tel individu. Chacun d'entre nous, nous avons notre individualité et nous avons aussi notre quiddité. Vous voyez, le mot quiddité existe même dans Sartre, évidemment avec un sens un peu différent, mais il a été inventé par Aristote, découvert par Aristote. C'est un des mots qu'Aristote a découvert, a inventé, le to-ti-en-en-en. L'être, le to-en, ce que je suis dans le to-en-en, dans l'être. Oui. Donc dans l'être, l'intelligibilité première de l'individu. Quelle est votre intelligibilité première comme individu? C'est que vous êtes un homme. Je suis un homme. Je suis un homme grâce à mon intelligence, à ma volonté, à tout ce qui fait votre personne. Et puis tout ça se réalise dans un individu. J'aboutis donc, en faisant cette, très rapidement, en faisant cette étude, qu'est-ce qui est premier dans l'homme. Je vois qu'il y a le sujet et l'acuité. Et donc la substance, l'être, ce qui est premier dans l'être, doit à la fois expliquer l'individu et expliquer l'acuité. Individu et acuité sont les deux effets premiers de la substance. Et tous les deux sont substance, mais ne sont pas la substance. Tous les deux sont essentiels et substantiels, mais ne sont pas la substance. La substance, c'est ce qui est au-delà de la quiddité et au-delà du sujet. Elle implique les deux. Elle est principe. Ce qui est très important, vous voyez, je crois que tout le monde peut saisir assez facilement qu'il y a en nous un sujet complexe, nous sommes individuels, nous sommes uniques dans notre individualité, personne ne peut nous remplacer. C'est un petit privilège, ça. Personne ne peut nous remplacer en tant qu'individu. En tant que quiddité, l'homme, des quantités de personnes peuvent nous remplacer. Ils sont des hommes aussi. Donc il y a quelque chose qui est commun à tous les hommes et quelque chose qui est individuel à cet homme que je suis. Cette femme que je suis. C'est très important de saisir qu'il y a en nous quelque chose d'unique, qui il y a en nous quelque chose qui est commun à tous ceux de notre espèce. La quiddité. La substance métaphysique, c'est-à-dire ce qui est de premier dans l'ordre de l'être, se présente donc à moi de deux façons. Et il faut saisir ce qui est au-delà de l'individu et au-delà de la quiddité. Et en saisissant ce qui est au-delà de la quiddité et au-delà de l'individu, je saisis le principe dans l'ordre de l'être, cet principe de détermination, la substance. Nous reprendrons ça parce que c'est très important de bien saisir le moment qui précède la saisie de la substance.